Lecture du psaume 91. Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu Très-Haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Oui, même si 1000 personnes tombent près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les méchants. Oui, Seigneur, tu es mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu piétineras le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Il m'appellera au secours et je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai, je lui rendrai son honneur, je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur.
Première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. À un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes, unies à Christ, se relèveront les premières. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Alors c'est la mort qui nous réunit. Et cette formulation, elle résonne en moi dans plusieurs sens. Il s'agit de dire d'abord que c'est la mort de Jean qui fait que nous sommes là, ici et maintenant. Il s'agit de dire aussi que c'est la mort qui réunit souvent des personnes, des amis, des membres d'une famille qui ne se sont pas vus depuis si longtemps, depuis bien longtemps, et qui se retrouvent alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis si longtemps parfois. Et c'est l'occasion de prendre la mesure qu'il y avait si longtemps qu'on ne s'était pas vu. Deuxième façon d'entendre. Troisième façon d'entendre, il s'agit aussi de constater que la mort nous réunit au sens où nous nous voyons tous associés finalement à la même expérience, à la même catégorie de personnes. Vous connaissez peut-être cette histoire de cette jeune femme qui, elle, venait de perdre son unique enfant et qui implore pour qu'il revienne à la vie. Et elle se voit invitée à aller chercher une poignée de graines de moutarde provenant d'une maison où il n'y a jamais eu de mort. Et elle part, et elle passe de maison en maison. Et chacun était disposé à lui donner la poignée de graines, mais aucun foyer n'était exempt de deuil. Ici un enfant, là une grand-mère, là un père, là un mari, un ami. La mort nous rassemble en ce sens. Nous sommes tous affectés, concernés. La mort nous rassemble aussi en nous portant à nous rapprocher physiquement les uns des autres, à nous serrer les uns contre les autres d'une façon qu'on ne fait pas habituellement, à nous serrer dans nos bras. La mort nous réunit. Et la mort nous rattachera aussi, et c'est dans le dernier sens que je l'exprime, elle nous rattachera tôt ou tard à elle. Aujourd'hui Jean, demain chacun d'entre nous, comme elle l'a fait hier pour ceux qui nous ont précédés. Et il y a 2000 ans, les Thessaloniciens en vivent, nous l'avons entendu, la douloureuse expérience eux aussi. Et apparemment, ils ont du mal à comprendre comment ça s'articule avec leur foi chrétienne. Alors il faut dire qu'ils font partie de la première génération de ceux qui ont fait l'expérience de la rencontre et de la foi en un homme qui est ressuscité des morts. Mais du coup, que faire de la mort? D'autant plus que le retour de cet homme est attendu, c'est aussi l'objet de leur espérance. Comme c'était aussi d'ailleurs l'objet de l'espérance de Jean. Il disait à plusieurs d'entre nous, je pense, à la fin du culte, à dimanche prochain, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là. Donc les Thessaloniciens avaient cette espérance, et puis en même temps ce retour n'a pas encore eu lieu. Et voici pour eux la mort qui s'invite, la mort qui s'impose. Et on ne sait pas quoi faire avec ça. Ils sont confrontés sans doute avec la même douleur, le même chagrin, devant ce que j'appellerais les mêmes béances quotidiennes, ces béances qui sont ordinaires, qui sont modestes, mais qui sont porteuses de tellement de poids. Celle du côté de lit, où le conjoint ne dormira plus. Celle de la chaise qui ne sera plus occupée à côté de Ruth. Celle de cette respiration qui ne se fera plus entendre pendant le culte. La béance de ce petit sourire aussi, de cette petite discrétion. Et on pourrait bien sûr se demander pourquoi, mais pourquoi il est mort si soudainement, si vite, On n'a même pas eu le temps de se préparer, de se dire au revoir. Il y a 2 semaines encore, Jean était là, au culte. Et peut-être parmi nous, tous ne pourront pas dire aussi spontanément que Ruth l'a fait en m'appelant la semaine dernière et en me disant « Jean est parti au ciel ». Donc c'est la mort qui nous réunit et c'est la mort qui nous sépare. La mort nous sépare les uns des autres. Et la Bible affirme aussi que c'est la mort qui nous sépare de Dieu. Mais là, le mot a un sens plus imagé, plus métaphorique. Le mot vient dire ici le choix humain de ne pas s'attacher à Dieu, de vouloir suivre son propre chemin, sa propre voie. Vous étiez morts, dit un autre passage biblique, à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde. Vous étiez morts. Mais Paul dit aux Thessaloniciens, donc ceux que nous avons évoqués avant, « Vous avez renoncé à cela pour servir le Dieu vivant. » Le Dieu vivant est vrai. Donc il y a une mort qui nous sépare les uns des autres, et il y a aussi une mort, une façon de vivre sans Dieu, qui nous sépare de la relation avec Dieu. Et donc face à la mort, nous entendons ces paroles de l'apôtre Paul, qui est un des premiers convertis à la foi chrétienne, qui d'ailleurs ne l'est pas devenu par confort, mais il est devenu à contre-cœur, obligé. Il avait quelqu'un devant lui qui l'a arrêté net. Et l'apôtre Paul nous dit, alors je reformule, « Frères et sœurs, ne soyez pas tristes, en tout cas ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. » La mort, nous dit Paul, sépare ceux qui n'ont pas d'espérance de ceux qui s'attachent à l'espérance chrétienne. Tous vont connaître le chagrin, la tristesse. Mais peut-être les chrétiens pourront ne pas vivre le chagrin de la même façon. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Et du coup, si j'ai commencé en disant que c'est la mort qui nous réunit, je crois qu'il est tout aussi ajusté de dire que c'est la vie qui nous réunit. Et là encore, je voudrais le dire en plusieurs sens, en 2 principalement. Bien sûr, c'est d'abord la vie de Jean qui nous réunit cet après-midi. Et plusieurs en auront du témoignage, d'autres auraient pu le faire aussi. La vie de Jean qui a pu croiser, qui a pu marquer la nôtre, et qui auront fait de lui un membre de notre famille, un père, un cousin, un frère, un époux, ou bien un voisin, un ami, un collègue de philatélie ou autre chose. Je ne sais pas si on parle de collègues en philatélie, pardonnez-moi. C'est la vie de Jean avec tout ce qu'elle a d'humanité. Aux témoignages qui ont été donnés, je pourrais rajouter que je le revois venir au-devant de moi régulièrement, à la fin du culte, ou bien du repas en commun, pour me dire que cette semaine, il avait vu tel documentaire sur Arte, qui passait tard dans la nuit. À propos de Jésus, à propos du judaïsme, à propos de l'époque de Jésus, de l'arche de Noé, et qui souvent se désolait un peu de ce qu'il avait pu entendre, et qui me demandait mon avis. Et c'est peut-être la façon la plus régulière dont il ouvrait la conversation avec moi, peut-être. Jean, pour qui, comme d'autres, voilà. Je mettais les timbres de côté, c'est pas que j'en reçois beaucoup. Mais... Sur le coin de mon bureau, Voici donc le dernier qui est arrivé, que je n'ai pas pu lui remettre. Jean qui ne se mettait pas en avant, pendant très longtemps d'ailleurs il se mettait en arrière, tout au fond, qui était sensible à l'attention qu'on pouvait lui porter et qui pouvait souffrir aussi de l'inattention, parfois. Alors tout le monde l'a dit, Jean qui aimait plaisanter, raconter une blague à sa façon, à qui il arrivait peut-être aussi d'être parfois entêté un petit peu, beaucoup, je ne sais pas, sans pour autant être méchant. Jean qui aimait donc à s'asseoir au fond pendant des années, et pendant le Covid, il fallait que ce soit ces places-là qui soient réservées. Voilà, et chacun, nous sommes là avec nos souvenirs. C'est la vie qui nous réunit, la vie de Jean. Mais c'est aussi la vie qui nous réunit au sens de la vie de Jésus-Christ, en qui Jean croyait. Et donc il l'a amené à fréquenter cette église depuis son origine. La vie de Jésus-Christ dont il a fait l'expérience, la rencontre, Ruth nous en a donné quelques échos, la vie de Jésus-Christ qui constituait un axe de la vie de Jean. Alors ça faisait ni de Jean ni d'aucun d'entre ceux qui cherchent à aimer Jésus-Christ, ça fait pas des personnes parfaites, mais ça fait des personnes qui cherchent à suivre Jésus. C'est la vie de Jésus qui nous réunit, la vie de Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Pour que tous autant que nous sommes, et pour reprendre le langage biblique que j'ai évoqué tout à l'heure, tous autant que nous sommes, nous qui suivions chacun notre propre chemin, nous qui vivions dans nos fautes, nous qui ne pouvons pas donner la vie, qui ne pouvons pas nous donner la vie à nous-mêmes. La vie de Jésus-Christ a été donnée pour que nous soit donnée la vie, et une vie qui dépasse les limites de notre vie présente. Et je me permets du coup de l'illustrer par une analogie qui vaudra ce qu'elle vaudra, mais bon, voilà. À savoir une histoire que plusieurs qui partagent la passion des timbres connaissent certainement. Avant 1840, les timbres n'existaient pas. On écrivait un courrier. Est-ce qu'on le mettait dans une enveloppe ou qu'on cachetait avec de la cire? Sans doute. Peut-être il y avait d'autres façons de faire. Je ne sais pas. En tout cas, on confiait cette missive au service des postes ou bien à des transporteurs privés. Mais c'était au destinataire à qui la lettre était destinée, à qui la lettre était acheminée, c'était au destinataire de payer pour pouvoir la lire. Et cette situation mettait un bon nombre de destinataires dans des situations difficiles. Parce que le prix qui leur était demandé au moment où on présentait la lettre, le prix était trop élevé pour eux. Et beaucoup de destinataires se voyaient contraints de refuser une lettre qui leur était adressée parce qu'elle était trop coûteuse. D'où les entreprises privées qui concurrençaient le service des postes pour essayer de faire un peu moins cher. Mais qui étaient chères, elles aussi. Et c'est en voyant un jour une servante refuser une lettre de son fiancé que lui apportait le facteur, qu'un haut fonctionnaire anglais, que voici, qui était directeur des postes, va avoir l'idée, plutôt que de faire payer au destinataire, de faire payer à chaque expéditeur une taxe qui permettait d'apposer sur la lettre une vignette. Voilà la première vignette anglaise, première vignette française, si je n'ai pas fait d'erreur. Même si la servante lui aura avoué qu'en fait elle avait convenu, elle savait qu'elle ne pourrait pas payer, mais elle avait convenu d'un code avec son fiancé, en fait l'enveloppe était vide, mais la façon d'écrire ce qu'il y avait décrit sur la lettre communiquait un message qu'elle comprenait. Et je ne retiens que cette idée, un prix qui est payé parce que quelqu'un, parce que la personne à qui il est destiné ne pourrait pas le payer. Il y a des prix que nous ne pouvons pas payer nous-mêmes. Il y a même des prix qui dépassent les valeurs marchandes. Mais l'Évangile nous dit que la vie de Jésus-Christ a été donnée pour payer un prix de cet ordre-là. La vie de Jésus-Christ est donnée pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc c'est la vie de Jésus-Christ qui est le gage de l'espérance des croyants, d'où cette parole de Paul. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Alors, soutenus par l'affection, par l'attention de vos amis, de vos voisins, de vos proches, Ruth, Elisabeth, chacun d'entre vous dont je ne connais pas bien le prénom, ne soyez pas tristes. De la même manière que ceux qui n'ont pas d'espérance. L'apôtre Paul ajoute, réconfortez-vous les uns les autres par ces paroles. Car la foi chrétienne assure que c'est la vie de Jésus-Christ qui est promise à celui qui place sa confiance en lui. Et que c'est la vie de Jésus-Christ qui nous réunira. Alors Ruth m'a enlevé le jeu de mots que je voulais faire, tant pis. Bon, tant pis pour moi. Tant pis si certains d'entre nous considéraient qu'une telle conviction ne vaut que pour des timbrés. L'apôtre Paul qui écrit ces paroles voyait bien les chrétiens de cette façon au départ lui-même. Il les considérait même comme des personnes dangereuses. Et c'est après qu'il écrira que la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie. Aux yeux de ceux qui se perdent. Mais lui aussi, à contre-cœur, devant le Seigneur ressuscité lui-même, il en vient à se tourner vers le Dieu vivant. Et vrai, le Dieu vivant. Que chacun d'entre nous entende pour lui la même invitation à se confier en ce Dieu vivant. Je reprends juste en terminant la fin du psaume 91, qui prend toute une épaisseur à cette lumière. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Il m'appellera au secours et je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Je vous invite à nous recueillir pour prier. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, parce que nous sommes croyants. Que nous soyons croyants ou non, la mort nous fait peur. Elle a toujours fait, elle le fera encore. Elle le fera jusqu'à la mort de la mort. Tu invites chacun d'entre nous à considérer Jésus-Christ, Jésus-Christ le vivant. Nous tous, qui espérons malgré nous et malgré la mort, à une vie longue et pleine, une vie en majuscule. Je prie pour tous ceux qui parmi nous seraient sans espérance, ou bien qui n'auraient que des rêves à espérer, sans aucune garantie que ce qu'ils imaginent, que ce que nous sera ce qui se passera. Et je prie pour chacun de ceux qui ici espèrent en toi, qui s'attendent à tes promesses, que ton amour nous rejoigne et nous porte à la confiance en toi. Amen.